Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Adieu et bon séjour en prison, les derniers mots de la mère d'Alexia Daval face à son meurtrier ce matin. Pour les commerces, la réouverture se profile pendant 8 jours, le samedi 28 novembre, mais pas plus d'un client pour 8 mètres carrés dans les magasins. Barcelone se déconfine, New York et la Californie se referment, et une étude nous permet de comprendre pourquoi les femmes sont moins malades que les hommes. La 5G est arrivée à Nice ce matin, première ville à en bénéficier. Donald Trump manœuvre encore pour se maintenir à la Maison Blanche en tentant d'inverser les résultats de l'élection. Le Parc des Princes accueille du foot féminin ce soir, PSG Lyon, une première pour un match de championnat. Invité d'Europe Midi, Patrick Stefanini, l'ex-directeur de campagne de François Fillon, qui tente dans un livre une approche dépassionnée de l'immigration, état des lieux et propositions pour sortir du déni ou des caricatures.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avant le verdict attendu demain, ultime face-à-face ce matin entre la mère d'Alexia Daval et celui qui s'accuse de l'avoir tué, Arthur Mbachet, vous êtes à Vesoul, racontez-nous.
Ce moment, elle l'attendait depuis des mois. Bonjour Jonathan, bonjour Isabelle. La mère de la victime, l'accusée, et l'impasse. S'il te plaît, aujourd'hui lâche-toi Jonathan. S'il te plaît, tu sais que c'est la dernière fois que je te vois. J'ai besoin de savoir. Pourquoi ? La réponse, toujours la même. C'est une dispute, Isabelle, faut le croire. La dispute de trop, les mots de trop, les reproches de trop. On a l'impression que tu veux tout mettre sur Alexia. Tu essayes de te dédouaner en disant que c'est sa faute. Non, j'ai mes torts aussi, Isabelle. Je fuyais, je voulais éviter le conflit. Mais ça veut rien dire, éviter le conflit. Quel couple ne se dispute pas ? Me dis pas que tu l'as tué pour quelques mots. C'était quoi ? La finalité de la tuer. Qu'elle se taise. Là, elle s'est tue. T'es heureux maintenant qu'elle s'est tue ? Elle s'est tue à jamais. Moi non plus, j'entendrai plus. J'entendrai plus son rire, j'entendrai plus sa voix. Quel gâchis. J'ai tout détruit, souffle Jonathan Daval. Pourquoi vous n'avez pas divorcé, relance la mère d'Alexia. On n'en a jamais parlé, c'était pas concevable à cause de l'image pour les autres. L'image, elle aurait été meilleure qu'aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? On n'avance pas. Je suis désolé pour tout. C'est tout? C'est si peu. J'attends mieux, Jonathan, s'il te plaît. Je peux rien dire de plus. Ma foi, tant pis. Je te souhaite un bon séjour en prison. Adieu.
Arthur Mbachet en direct des Assises de la Haute-Saône à Vesoul, Europe 1, il est midi 32. Pour les commerces, ça se précise. Réouverture programmée dès le samedi 28 novembre, même si la décision doit encore être entérinée par Emmanuel Macron. Ce serait donc dans 8 jours, mais comme le gouvernement veut éviter une ruée dans les boutiques, il vient d'imposer un protocole sanitaire qui limite le nombre de clients en magasin. Carole Ferry, un seul client pour 8 mètres carrés.
C'est ça, deux fois plus d'espace par client que ce qui est prévu aujourd'hui. Ça veut dire en effet moins de monde accueilli, mais moindre mal, puisque le gouvernement envisageait d'aller jusqu'à 10 mètres carrés par client, comme en Allemagne. Et la règle sera la même pour tout le monde, pas de dérogation pour les commerces de moins de 100 mètres carrés, comme ils l'espéraient. Voilà pour les points qui ont été réglés ce matin. Il reste maintenant la question d'une ouverture élargie. Plusieurs fédérations demandent à pouvoir ouvrir tous les dimanches de décembre et janvier, et jusqu'à 22h. Le gouvernement y est plutôt favorable, mais les discussions ont été repoussées à plus tard. Tous les feux semblent donc en effet ouverts pour permettre au commerce physique de rouvrir dès le 28 novembre. Un sacré tour de force, on peut le dire, pour Bruno Le Maire, parce que c'était loin d'être gagné la semaine dernière. Et c'est vraiment lui qui a pris le dossier en main. Il a personnellement appelé le patron d'Amazon France mercredi. Résultat, le lendemain, il y avait un représentant du géant américain à la table des négociations. Un signe fort pour tous les autres. La suite, on la connaît. Le sac de nœuds, c'est progressivement dénoué.
Carole Ferry, sur le plan sanitaire, le pic de la seconde vague a bien été franchi, indique le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France. Tous les indicateurs sont désormais en baisse, infection, hospitalisation, admission, réanimation, tandis que le taux de décès se stabilise. À ce propos, une étude menée à Strasbourg tente d'expliquer pourquoi les femmes sont moins touchées que les hommes par le Covid et développent des formes moins sévères, Anne Le Gall.
Exactement, parce que c'est un constat depuis le début de l'épidémie. Les hommes ne sont pas plus nombreux que les femmes à être contaminés par le Covid, mais ils représentent 53% des patients patients hospitalisés et 59% des décès. Alors, certains avaient évoqué une plus grande consommation de tabac ou d'alcool chez les hommes, mais les résultats ne sont pas concordants, d'où l'intérêt effectivement de cette étude des hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Institut Pasteur. Elle montre une différence homme-femme dans l'immunité. Les chercheurs ont suivi 300 volontaires touchés par le coronavirus et pour qui on connaissait la date de contamination. Pour chacun d'eux, les chercheurs ont mesuré la quantité d'anticorps qu'il leur restait précisément 3 mois et 6 mois après l'infection. Et pour la professeure Samira Fafi-Kremer, co-auteure de l'étude, les différences hommes-femmes apparaissent clairement.
Curieusement, vers 3-6 mois, les hommes ont perdu rapidement leurs anticorps, alors que les femmes ont montré une meilleure stabilité des anticorps. On sait que plusieurs gènes qui sont impliqués dans la réponse immunitaire sont liés au chromosome X. Il y a aussi un lien avec nos hormones. Maintenant, il va falloir voir si cette donnée persiste dans le temps.
Les chromosomes double X des femmes et XY des hommes pourraient donc expliquer ces différences. Alors une question se pose, un éventuel vaccin pourrait-il aussi être plus efficace chez les femmes ? Impossible de l'affirmer pour l'instant, mais ces chercheurs espèrent que les laboratoires mèneront vite des travaux sur la question.
Anne Le Gall, un coup d'œil chez nos voisins. En Espagne aussi, le pic de la deuxième vague est passé et la région de Barcelone va se déconfiner partiellement et prudemment. Le correspondant d'Europe 1, Henri de Laguérie.
En Catalogne, on ne veut surtout pas répéter les erreurs du printemps dernier avec un déconfinement trop rapide. Ce plan comprend 4 phases et s'étalera sur 2 mois. Lundi prochain, après plus de 5 semaines de fermeture, les restaurants pourront de nouveau accueillir des clients jusqu'à 21h30. Mais les capacités seront réduites. Jérôme Misan est patron d'un bar à tapas.
C'est une fausse bonne nouvelle. Ce qu'ils nous proposent, c'est d'ouvrir 30% du restaurant, 30% de la terrasse. C'est pas viable, donc nous, on a décidé de ne pas ouvrir. Le problème, c'est qu'on n'a aucune aide. C'est difficile.
Les cinémas et les théâtres pourront ouvrir à 50% de leur capacité. Il faudra attendre le 21 décembre pour entrer ou sortir librement de Catalogne. Pour Noël, les réunions passeront de 6 à 10 personnes, mais le couvre-feu entre 22h et 6h du matin sera maintenu jusqu'en janvier. Il ne faut pas se précipiter, répète le président catalan Pere Aragonès.
En aucun cas, nous ne permettons la reprise de la vie sociale. Il ne s'agit que d'assouplissement. Même si la tendance est positive, la situation reste grave. Nous devons tout faire pour éviter une troisième vague cet hiver avant l'arrivée du vaccin.
Cette prudence catalane tranche avec la situation de Madrid. Dans la capitale espagnole, tout est ouvert, il n'y a pas de restrictions de mobilité et pourtant, l'épidémie recule plus vite sans que personne ne parvienne réellement à l'expliquer. Barcelone, Henri de Laguérie, Europe 1.
Aux États-Unis, l'épidémie en croissance exponentielle, plus de 200 000 contaminations et plus de 2 000 morts par jour. École à nouveau fermée à New York et nouveau couvre-feu d'un mois en Californie. Et tandis que le président élu Joe Biden s'impatiente, Donald Trump manœuvre pour rester en place. On le prenait pour un mauvais perdant. Pas du tout, Rémi Bossaron. On découvre que Trump espère encore inverser les résultats de l'élection.
Oui, et sa cible aujourd'hui, c'est le Michigan, avec une manœuvre inédite dans l'histoire de l'élection présidentielle américaine. Cet après-midi, Donald Trump va faire venir à la Maison-Blanche 2 hauts responsables républicains de cet État, l'un venu du Sénat local, l'autre de la Chambre des représentants. Il n'a pas dit pourquoi il les recevait, mais la presse américaine voit 2 options. Soit le président sortant veut bloquer la certification des résultats, soit il cherche à contourner le vote populaire. C'est une option qui a déjà été évoquée par des membres de son équipe. Donald Trump pourrait pousser le Michigan à ne pas respecter ce vote populaire et à désigner des grands électeurs qui lui seraient favorables. S'il parvient à faire ça dans plusieurs États, il pourra toujours espérer être élu par le collège électoral en décembre. C'est une théorie, évidemment, une théorie qui a déjà été balayée en fait par l'un des 2 élus républicains convoqués aujourd'hui à la Maison-Blanche. Il l'a rappelé il y a quelques jours, un État ne peut pas trahir le vote populaire, c'est illégal. Mais jusque-là, Donald Trump n'a reculé devant rien, ce qui a fait dire à Joe Biden lui-même hier soir, il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne.
Rémi Bossaron et l'administration Trump poursuit les exécutions capitales. Un condamné vient d'être tué par injection dans l'Indiana, alors que la tradition veut que les présidents non réélus sursoient aux peines de mort.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la 5G à Nice, c'est le Parc des Princes qui accueille enfin le foot féminin.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Nice, première ville de France couverte par la 5G. L'opérateur SFR vient tout juste de brancher ses antennes, Frédéric Michel.
Effectivement Patrick, alors on ignore le nombre d'antennes exactes, mais depuis midi précisément, 50% de la population niçoise peut avoir accès au réseau 5G à condition d'être équipé d'un smartphone compatible et d'un abonnement adéquat chez SFR. Alors pourquoi Nice? C'est une volonté du maire, Christian Estrosi. C'était un des thèmes de sa campagne municipale, faire de la métropole niçoise un modèle dans ce domaine. Et alors que certains élus hésitent et s'interrogent sur la technologie, Christian Estrosi est convaincu que cette technologie sera un moteur pour faire venir des entreprises françaises et étrangères.
C'est au service de l'économie, c'est au service de la santé, c'est au service de l'environnement. Demain, dans les territoires qui ne disposeront pas de la 5G, il pourrait y avoir même des sentiments de révolte de la part d'un grand nombre de nos concitoyens et surtout d'entreprises qui se délocaliseront.
Et dans les prochaines semaines, la couverture du réseau 5G ici à Nice, 50% aujourd'hui, va progressivement s'étendre.
Et Frédéric Michel en direct de Nice. J'apprends à l'instant que le tueur en série Michel Fourniret est hospitalisé depuis ce matin en réanimation à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il a fait un malaise ce matin dans sa cellule au centre pénitentiaire de Fresnes. Le football avec une affiche féminine ce soir au Parc des Princes. C'est la première fois pour un match de championnat, en l'occurrence PSG Lyon, Marguerite Lefebvre.
C'est une première en effet, et pour saisir l'ampleur de l'événement, dites-vous qu'il y a 2 ans, les Parisiennes jouaient encore leur match de championnat au Stade des Loges. 2000 places en pleine forêt de Saint-Germain-en-Laye. Depuis, il y a eu le Stade Jean-Bouin, et donc ce soir, la marche est immense. Le Parc des Princes, une arène mythique pour acter la nouvelle dimension du foot féminin en France. Une arène à la mesure de l'affiche également. PSG-OL chez les femmes, c'est le choc de la première division. Les deux meilleures équipes du championnat, avec avantage aux Lyonnaises, donc palmarès complet ne tiendrait pas dans ce papier. Des joueuses qui portent leur sport, selon la comédienne Julie Gayet, fan de foot, qui était l'invitée inattendue de Sébastien Krebs ce matin.
Elles sont légendaires, ces joueuses de l'OL, ouais. Et puis face au PSG. C'est-à-dire quand même l'immense joueuse aussi, donc ça va être un très très beau match. Il y a aussi quelque chose d'autre qui se passe dans la société certainement en ce moment. Moi, quand j'étais jeune, je ne me rendais pas compte que finalement je regardais des garçons jouer, je jouais, mais je me projetais dans les garçons. Et là, maintenant, on peut avoir ce rêve-là de devenir footballeuse professionnelle.
Alors ce soir, le Parc des Princes, malheureusement, sera vide, confinement oblige, mais la rencontre sera diffusée en direct à la télé, ce sera sur Canal+, à partir de 21h.
Merci Marguerite Lefebvre. Le temps, Anissa Dadi, temps agité en Corse.
Oui, avec surtout un temps très agité sur la Haute-Corse, Patrick. Le vent du nord souffle jusqu'à 110 km/h cet après-midi. Il neige sur les reliefs dès 1300 mètres. Le ciel est nuageux avec de fortes pluies, des pluies orageuses. Bref, vous l'avez compris, un cocktail qui va agiter l'île une bonne partie de la journée. Sur le continent, là, le ciel est dégagé sur presque tout le pays. Nous avons des conditions anticycloniques. Cet après-midi, le soleil domine avec tout de même sur l'Auvergne, le centre et la Lorraine, encore quelques grisailles tenaces. Et puis en Bretagne et en Normandie, malheureusement, là, le ciel est un petit peu plus couvert. Le temps reste sec, mais voilà, il fait plus gris. Dans le sud, toujours le Mistral et la Tramontane qui soufflent fort depuis hier. Les températures, elles sont en baisse cet après-midi. Vous avez certainement dû le sentir. Nous aurons que 7 degrés à Metz et Saint-Etienne, 10 à Paris, Lille et Lyon, 12 à Rennes et Grenoble, 14 pour Bastia, 16 à Marseille et 18 la maximale pour Nice.
Merci à vous, Anissa Dadi.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, l'immigration en France, radiographiée par Patrick Stefanini, haut fonctionnaire, préfet, ancien directeur de campagne présidentielle de François Fillon. Un constat, des idées reçues bousculées, des solutions, on en parle tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Patrick Stefanini.
Bonjour.
Vous avez été mis dans la lumière il y a 3 ans comme directeur de campagne de François Fillon, mais avant cela, vous avez consacré une grande part de votre carrière de haut fonctionnaire à l'immigration. Vous rappelez dans votre livre votre baptême du feu, l'affaire du charter des 101 Maliens en 86. Vous étiez au cabinet de Robert Pendreau. Vous avez été plus tard le secrétaire général du ministère de l'immigration sous Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. Mais le livre que vous publiez aujourd'hui, Immigration, ces réalités qu'on nous cache chez Robert Laffont, n'est ni un pamphlet, ni un livre de circonstances. C'est d'abord un état des lieux solide et documenté. On peut dire que vous tentez d'échapper aux caricatures sur ce sujet dans le débat public.
Oui, parce que je crois que nous avons besoin, pour vivre ce débat et surtout pour prendre des décisions stratégiques, nous avons besoin d'informations fiables, partagées par toutes et par tous, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres. Et je me suis donc efforcé de consacrer les 3 premiers chapitres de mon livre à un état des lieux de l'immigration en France depuis 20 ans. Mmh. Donc ce n'est pas un livre de circonstances, pas un livre d'actualité. Je décris ce qui s'est passé depuis 20 ans dans notre pays, dans ce domaine.
Ce n'est pas l'immigration la source de toutes nos difficultés, mais c'en est une.
En tout cas, je pense que c'est une des clés de lecture des difficultés de la société française. C'est certainement pas la seule. Et dans la période de crise sanitaire dramatique que nous vivons, c'est une évidence. Mais je ne voudrais pas que ce sujet soit systématiquement passé sous silence ou caché comme la poussière sous le tapis. C'est, bon. C'est un sujet majeur.
Alors, sujet majeur parce que vous pensez que... le flux migratoire est plus important que ce qu'on dit généralement dans le débat public. Qu'est-ce qui vous permet de contester ce que disent les démographes, à savoir la faiblesse du solde migratoire de la France, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties ?
D'abord, un solde, c'est toujours un concept ambigu. C'est comme la balance commerciale qui fait le solde entre les exportations et les importations. Là, le solde migratoire de la France, c'est l'addition de deux soldes. Le solde migratoire des immigrés, c'est-à-dire chaque année, combien il y a d'immigrés qui rentrent en France et combien il y a d'immigrés qui quittent la France. Et je fais le constat dans mon livre que ce solde migratoire des immigrés, il a beaucoup augmenté depuis 20 ans. Et que en 2016, et la situation n'a pas évolué depuis, il est devenu plus important que le solde naturel. Ça veut dire que la population française, depuis 4 ans, elle augmente davantage à cause de l'apport de l'immigration qu'à cause de la différence que l'on constate chaque année entre les naissances et les décès. Et la deuxième partie du solde migratoire de la France, ce sont les Français eux-mêmes qui quittent la France ou qui y reviennent. Il se trouve que notre pays devient aussi un pays d'émigration, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de Français qui s'expatrient. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mon livre, c'est la partie immigration. Et je démontre donc que l'immigration est en forte croissance depuis 20 ans.
Pour donner un chiffre, le nombre d'immigrés supplémentaires chaque année, vous l'évaluez à environ 200 000.
C'est pas moi qui l'évalue, c'est l'INSEE. La dernière estimation de l'INSEE, celle dont je disposais au moment où j'ai écrit mon livre, c'était 191 000.
Quel type d'immigration en France j'ai noté que, d'après vous, et contrairement à l'impression qui est donnée souvent dans le débat public, le regroupement familial n'est pas la part la plus importante de l'immigration en France aujourd'hui.
Non, parce que le regroupement familial, c'est le fait pour un ressortissant étranger de faire venir sa famille. Donc ça a beaucoup marché dans les années 75-2000. Aujourd'hui, l'immigration familiale, c'est tout à fait différent. L'immigration familiale, aujourd'hui, ce sont des Français qui se marient avec un conjoint étranger et qui font venir leur conjoint. Donc le gouvernement n'a quasiment plus aucune marge de manœuvre sur ce type d'immigration, puisque le droit au mariage est un droit qui est constitutionnellement consacré. Et cette forme d'immigration s'est beaucoup développée depuis le début des années 2000.
Sans que, encore une fois, les gouvernements puissent avoir prise là-dessus. Est-ce qu'il faut arrêter l'immigration économique, donc
De façon plus globale, moi je pense qu'il faudrait, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays européens, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, et je cite des éléments significatifs à cet égard, il faudrait indexer l'immigration en France sur la situation de notre marché du travail. Parce qu'au fond, ce qui pose problème à la société française, il y a beaucoup de Françaises et de Français, ça n'est pas qu'il y ait dans l'absolu beaucoup d'immigration, c'est qu'une partie très importante des immigrés, et notamment des personnes qui viennent pour des raisons familiales, ne parviennent pas ensuite à s'insérer sur notre marché du travail. Car il faut le reconnaître, notre marché du travail, depuis les deux chocs pétroliers, et c'est encore plus vrai, évidemment, depuis la crise économique de 2008-2009, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce qui nous attend dans les années qui viennent avec la crise sanitaire. Notre marché du travail, il est considérablement dégradé. Nous vivons le chômage de masse. Et comment voulez-vous que les choses se passent bien avec une immigration importante en termes d'intégration sur le marché du travail, dans ce contexte-là ?
Immigration importante, avez-vous dit. Pour autant, vous balayez le concept de grand remplacement.
Oui, ça, c'est un concept qui m'est étranger. D'ailleurs, l'analyse à laquelle je me suis livré sur le solde migratoire des immigrés intègre à la fois les immigrés d'origine européenne, ceux qui sont d'origine extra-européenne, donc je ne participe pas de ce concept-là.
En revanche, vous tentez une évaluation du nombre d'étrangers en situation irrégulière, 900 000.
Oui, alors, il y a deux ans, en 2018, un rapport parlementaire rédigé par François Cornu-Gentil et un de ses collègues de La République En Marche, M. Cocuando. Et ils se sont livrés à une analyse tout à fait précise et très détaillée de la situation dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et ils ont rencontré de nombreux experts, dont le directeur de l'immigration du ministère de l'Intérieur, qui leur a fourni, pour le département de la Seine-Saint-Denis, une évaluation du nombre des clandestins en multipliant par 3 le nombre des bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Donc l'estimation que j'avance dans mon livre à 900 000, ça n'est jamais que la transposition ou l'extrapolation à l'ensemble de la France du constat fait pour la Seine-Saint-Denis. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le nombre des clandestins qu'on estimait autrefois à partir du nombre des bénéficiaires de l'AME, aujourd'hui, de l'avis de la majorité des experts, cette estimation n'est plus exacte et le nombre des clandestins est malheureusement beaucoup plus important que ce qu'on nous avait dit.
Alors, vos propositions, Patrick Stefanini, vous appelez à une reprise en main ou à une reprise de contrôle de la politique migratoire. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'exécutif, les pouvoirs publics ont perdu ce contrôle-là.
Oh, c'est pas moi qui le dis, c'est Édouard Philippe qui l'année dernière.
Oui, c'est vrai, il a eu cette phrase.
Voilà, il a eu cette phrase.
Vous rappelez qu'il n'y a ni recette miracle, ni arme absolue. Et surtout, vous rappelez que le pouvoir des politiques est limité par les traités, oui, par les règles constitutionnelles et celles des autres cours suprêmes.
Oui. Oui, nous sommes limités à plusieurs points de vue. D'abord, nous avons signé avec notamment les pays du Maghreb, au lendemain de leur indépendance, à la fin des années 60, nous avons signé toute une série d'accords bilatéraux. Ces accords, ils sont toujours là, ils sont toujours en application. Nous ne les avons pas véritablement révisés, en tout cas pas de manière suffisante à mon goût. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'interroge. Est-ce que l'immigration en provenance des 3 pays du Maghreb, alors que ces pays se sont développés par ailleurs depuis 60 ans, est-ce que cette immigration est toujours d'actualité? Est-ce que nous n'avons pas besoin de réviser ces accords pour les adapter à la situation de l'économie française? C'est une première question que je pose. Deuxièmement, nous avons adhéré, nous faisons partie de l'Union européenne, nous avons fait le choix de construire une union politique qui est régie par le principe de libre circulation. Mais en adhérant à l'Union européenne, en adhérant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, je ne suis pas certain qu'on ait décidé d'endosser pour l'éternité la jurisprudence, et notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas sans poser problème.
Qui protège le regroupement familial, notamment.
Qui protège et qui même, quelque part, sacralise le regroupement familial. Alors, la difficulté, je l'ai constaté dans mon enquête, c'est que la façon dont la France, par exemple, applique le regroupement familial, c'est pas la façon dont l'Allemagne applique le regroupement familial. Et ça pose problème dans une union européenne. Alors, l'Union européenne, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Union européenne. Souvent, on l'avoue aux hégémonies, et une partie des responsables politiques rend l'Union européenne responsable des difficultés que la France rencontre en matière d'immigration. Moi, je voudrais casser cette idée. Je ne prétends pas que la façon dont l'Union européenne fonctionne soit parfaite. Ce qui s'est passé à Nice avec ce terroriste venu de Tunisie qui a débarqué à Lampedusa et qui a pu ensuite, sans aucune difficulté, rejoindre le territoire français, montre que nous devons faire un effort très significatif pour améliorer le contrôle de nos frontières extérieures. Mais de là à rendre l'Union européenne responsable de tout ce qui nous arrive en matière d'immigration, je ne franchis pas ce pas, pour cette raison simple que l'Union européenne n'a de compétences qu'en matière de contrôle des frontières extérieures et des visas. Tout le reste, c'est de la responsabilité de nos autorités nationales.
En quelques mots, Patrick Stefanini, est-ce que l'immigration devrait, selon vous, redevenir une priorité de l'action politique, sachant que si c'est le cas, et si c'est le cas, par exemple, pour la prochaine campagne présidentielle, on risque de retomber dans les caricatures que vous dénoncez.
Oui, en tout cas, moi, je pense que l'immigration devrait être rehaussée en termes de priorité dans l'agenda des responsables politiques. Et je crois d'ailleurs que la crise sanitaire, qui va entraîner des difficultés économiques et sociales considérables pour notre pays, impose ce que j'appelle un aggiornamento de notre politique migratoire.
Merci Patrick Stefanini. Immigration, ces réalités qu'on nous cache, ça vient de paraître, c'est paru hier chez Robert Laffont. Merci d'être venu nous en parler.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Le 13h, dans un instant, d'autres informations, Christophe Lamarre, puis la France bouge. Bonne journée et bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Europe Midi, Patrick Cohen.